Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
Libre Radio, www.libreradio.org, la web radio du peuple.
Voilà, alors le jingle annonce de la grillade de bourgeois. Bienvenue à toi, Georges André. Donc, en fait, tu nous reçois ici. Donc, on a fait au sommaire, on a dit au sommaire pourquoi nous étions là et où nous étions. Donc, on le rappelle, c'est le café-restaurant Tché, hein, qui se trouve ici à La Chaux-de-Fonds. Je recherche l'adresse maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais la retrouver rapidement.
Collège 23.
Voilà, rue du Collège 23.
Rue du Collège 23.
Merci. Alors, nous sommes là parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour, d'une certaine manière, en hommage, d'une certaine manière, à mai 68, au cinquantenaire de mai 68, eh bien, tu organises la chasse au pavé, qui est un jeu de rôle un petit peu spécial, qui revient, d'une certaine manière, sur mai 68, à l'aune de notre époque contemporaine. Alors, d'où est venue déjà cette idée de jeu ?
Alors en fait, ce jeu, la chasse au pavé, a été le fruit d'une commande d'un professeur qui en 1988 voulait fêter ses 40 ans et inviter ses amis. Et comme ils avaient 20 ans en 68, il fallait que le thème soit 68. Donc on a pondu avec René Georges Aslavski, qui était mon co-créateur à l'époque, avec qui on créait des jeux. On a fait un jeu pour que tout le monde puisse jouer, puisque comme c'était une fête anniversaire, peut-être que les gens venaient juste causer, venaient plus tard, repartaient avant. Donc en fait, c'est un jeu assez libre où on entre, on sort quand on veut. On peut jouer, on ne peut pas jouer. Et la particularité, c'est que, ben, par exemple, ici, on le fait dans un bistrot. Toutes les personnes qui consomment aujourd'hui au Tché reçoivent aussi des éléments du jeu. Il les garde, il les garde pas, mais les joueurs qui sont autour et mélangés peuvent aller comme ça parler à monsieur et madame n'importe qui et tenter de récupérer des cartes.
D'accord. Alors on va bien entendu dans quelques instants venir stricto sensu au jeu en lui-même, mais avant cela j'aurais voulu savoir un petit peu ton état d'esprit par rapport à mai 68, quel est ton rapport à mai 68, ce que tu en as éventuellement retiré, ou quel est ton ressenti par rapport à cet événement particulier.
Alors, moi, en fait, ben, aujourd'hui, j'ai 58 ans et donc, en fait, en 68, j'avais 8 ans, donc trop petit pour aller sur les barricades parce que Gavroche, c'était un siècle avant. Et donc, en fait, je n'ai pas directement participé à ça, mais je dirais que j'étais dans une famille où il y avait de la culture, où il y avait pilotes qui étaient là. Donc, il y avait un petit peu comme ça des influences qui fait que j'étais un peu au courant. Et surtout, je dirais que je suis un petit frère de 68, parce qu'à partir de 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à avoir une pensée politique, principalement grâce à une prof d'histoire qui nous a... mes deux profs d'histoire que j'ai eu à l'école secondaire m'ont donné finalement une conscience politique qui ensuite s'est concrétisée. Et je dirais que je suis un 68-art, mais voilà. Voilà. Directement influencé par ben, la gauche, bien sûr, les alternatives de l'époque qui ont pu émerger plutôt dans les années 70 en Europe. Mm-hmm. Mais ensuite, bien sûr, avec toute la culture qui va autour ou qui découle de 68, sachant qu'on a toute l'influence hippie des États-Unis qui va s'exprimer dans les années 70.
Absolument. Toi-même, tu es un habitant de La Chaux depuis longtemps ?
Alors en fait, ben, je suis né à La Chaux-de-Fonds et j'y suis j'y ai toujours vécu à part de rares courts séjours à Neuchâtel et à Genève. Et bien sûr aussi, pour avoir une conscience politique, quand vous habitez La Chaux-de-Fonds, c'est d'office parce que, ne pas oublier, on fête ça aussi cette année. Ça fait 100 ans que La Chaux-de-Fonds a une majorité au Conseil général de gauche, pas forcément énorme, mais... néanmoins suffisante pour donner un état d'esprit peut-être un peu unique en Suisse et en Suisse romande. Quoique aujourd'hui, depuis quand même quelques années, des grandes villes comme Zurich, Bâle, Genève et Lausanne sont tous aussi à majorité de gauche et ont ce même esprit. Mais ici, la particularité de La Chaux-de-Fonds, c'est que ça fait 100 ans qu'il y a cet état d'esprit que la qualité de vie avant tout, la production quand même, l'industrie, hein, on n'élève pas des vaches, La Chaux-de-Fonds n'a pas fait sa richesse avec du lait, Mais bien entendu, tout le monde le sait, avec des montres, mais avec aussi tout un tissu qui se crée autour des montres, des graphistes, des gens qui travaillent dans le luxe, un tissu qui s'est créé, forcément autour du luxe, la culture. Donc c'est une ville pour son nombre d'habitants, 50 000, à un terreau et une foison culturelle, je crois, remarquable.
Absolument. Alors dis-moi, dans une cité ouvrière telle que La Chaux-de-Fonds, que pourrait-on dire, de ton point de vue, sur l'héritage de 68 ici ? Y en a-t-il un qui est très prégnant, ou est-ce plutôt des bribes comme ça qui visitent les esprits des personnes ? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, cet état d'esprit existait bien avant 68 dans la ville de La Chaux-de-Fonds. Alors y a-t-il, est-ce que 68 a été un moment charnière pour La Chaux-de-Fonds et la région de Chaux-de-Fonnières, ou pas tant que ça finalement ?
Alors, pour ce sujet direct, je n'ai pas assez d'informations. J'ai pas eu le temps, si on veut, d'étudier particulièrement ce qui s'était passé à La Chaux-de-Fonds. Je sais plus ce qui s'est passé à Paris, bien entendu, ou dans d'autres villes. Mais je dirais qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que l'esprit des années 70, comme on a dit tout à l'heure, que ici, il n'y a peut-être pas eu un 68 ouvrier, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de choses comme ça. Mais partout en Suisse, il y a eu juste, je crois, une petite grève dans une université à Zurich, mais pas beaucoup d'autres choses. Par contre, l'esprit des années 70 a amené à ce qu'il y ait justement des projets culturels comme Bikini, comme tout un tas de choses qui font l'ABC, le théâtre, Objet Fax, enfin pas mal de festivals ou d'événements qui sont directement issus soit de collectifs, soit de coopératives. Et en ce sens-là, il y a un héritage comme ça.
D'accord.
Avant, tu parlais de cité ouvrière. Alors, je pense que c'est un mythe. Bon, on avait des abeilles sur nos armoiries. Je ne sais pas si ça représente vraiment les ouvriers ou pas. Ça, on doit checker. Par contre, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une particularité de La Chaux-de-Fonds, mais qui n'est peut-être pas si particulière à La Chaux-de-Fonds, c'est que vous avez chaque jour 10 000 voitures qui rentrent dans la ville pour venir travailler. Et ces gens-là, qui sont une forme d'ouvriers d'aujourd'hui, ils travaillent dans le luxe, ils travaillent dans la micromécanique, ces gens-là repartent à 17h, soit pour aller dans des communes où ils payent moins d'impôts, parce que voilà, soit parce qu'ils habitent à Neuchâtel, ou ils habitent dans le Jura, et où il n'y a pas ce tissu économique. Ne pas oublier que le canton de Neuchâtel est principalement soutenu par l'industrie de La Chaux-de-Fonds. Même si beaucoup de chaudefonniers vont aussi travailler à l'extérieur, on a beaucoup de frontaliers, mais pas que des Français. On a des frontaliers, des Vaudois, des Neuchâtelois, qui sont presque un autre pays, ceux qui habitent au bord du lac, là. Et ce qui fait que cet esprit ouvrier qu'on a pu trouver à La Chaux-de-Fonds avec les cercles ouvriers, avec des fêtes, avec les parcs, enfin beaucoup de choses, a complètement disparu. Parce que les travailleurs d'aujourd'hui ne vivent pas dans les villes où ils travaillent. Et donc, ils partent le matin, ils rentrent le soir. Peut-être qu'ils ne sont juste pas assez fatigués pour quand même un peu aller à la fête dans leur ville. Mais néanmoins, La Chaux-de-Fonds se retrouve vide le soir parce que beaucoup de gens qui y travaillent y habitent en dehors.
D'accord.
Donc, on n'a plus cette émulation de la solidarité ouvrière, qu'on trouve alors par contre dans certains quartiers, comme le quartier ici, qui est la vieille ville, le quartier autour de la place du Bois. On peut trouver des éléments de solidarité parce que les gens peut-être justement travaillent ici, ont des petits jobs, et même s'ils travaillent à La Chaux-de-Fonds, ils vivent aussi ici. Donc ça fait un autre tissu.
Ok, écoute, juste une dernière question avant que nous en venions au jeu. Pour toi, au travers de ton expérience personnelle, quelles sont les figures tutélaires, si tu en as avec quelques-unes, qui proviennent de mai 68, de cet esprit ? Toi, qu'est-ce que tu en as retenu personnellement, en termes humains, en termes spirituels, en termes culturels, artistiques ?
Alors bon, comme ça, j'ai assez mauvaise mémoire pour avoir des noms, mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un, bien sûr, c'est comme Bendit, comme figure de l'étudiant qui est déjà européen avant que l'Europe existe. En 68, il n'y a encore pas l'Europe qui est fondée. Mais à noter que Cohn-Bendit va être un moteur ou une figure peut-être juste médiatique. On ne sait pas finalement son importance réelle au sein des assemblées, au sein des mouvements. Mais néanmoins, il a cristallisé comme ça l'image de la Révolution. C'était un Allemand qui fait la Révolution en France, qui était assez intéressant aussi. Parce que ben, moi, étant un mélange typique européen, j'ai des origines qui viennent de l'Allemagne par mon nom, Brugère, mon père. J'ai des origines françaises par ma mère. J'ai des origines italiennes et espagnoles par mes grands-parents de génération comme ça. Et donc, cet esprit européen, il me plaît. Il me plaît que, ben, on arrête de se faire la guerre au moment où on fait partie de la même entité. Et voilà. Dans les figures importantes que j'ai retenues, ben, il va y avoir les mouvements rock. Alors, en 1969, se crée un groupe qui va être fondamental pour moi et toute ma culture musicale. C'est King Crimson, avec Robert Fripp, entre autres. Ça, c'est typique, le début de la musique que j'adore, soit du psychédélisme, du rock, de la recherche, du pas forcément contemporain, pas forcément free jazz, mais une musique riche où on s'amuse, où on cherche, poétique, où les textes ont du sens, enfin voilà. Donc ça, c'est au niveau artistique, je pense, s'il y a quelqu'un que je dois remercier d'exister sur cette terre, c'est bien Robert Fripp, que nous allons d'ailleurs avoir la joie avec ma compagne et Pierre Anthony qui n'est pas là encore, mais
qu'on salue quand même,
qu'on salue de loin, puisqu'il n'a pas voulu venir dans cette montagne. Mais néanmoins, avec lui, nous irons voir King Crimson à Paris à l'Olympia. Dans quelques mois, on se réjouit juste avant que, parce qu'il commence à être un peu âgé, j'imagine. Mais voilà, bon, il a peut-être que 10 ans de plus que moi, mais néanmoins. Je pense que voilà, c'est une occasion. Je ne les ai jamais vus en plus. Je ne les ai jamais vus quand ils étaient venus à Zurich. J'avais malheureusement pas pu y aller.
Et sur le plan littéraire, philosophique, y a-t-il des auteurs justement ou des écrits comme ça qui t'ont emporté, qui reviennent, voilà, enfin qui sont issus de cet esprit de 68? Je ne sais pas, on pourrait citer, je sais pas, Bukowski.
Non, je pense qu'un qui m'a beaucoup influencé, ça doit être Lancelot, qui a fait cette série Campus. Ça fait tout, 3 livres comme ça que j'ai eu l'occasion de lire parce que, à l'époque, ma maman vivait une relation avec un journaliste très cultivé qui, quelque part, ma mère étant déjà, m'avait inondé de livres, donc j'avais une très très bonne connaissance historique. Mais ce monsieur-là m'a justement donné des pistes comme ça, en me donnant Lancelot, en me disant va regarder ça. Et à travers Lancelot, c'est la découverte de tout ce monde du psychédélisme, mais aussi du chamanisme, mais enfin de tous ces mouvements qui ont émergé et explosé en Europe à ces époques.
Il était lui-même un journaliste, il me semble, Lancelot, justement, parce que je crois qu'il a notamment écrit une anthologie dont le titre m'échappe maintenant, où justement il revient sur plein d'autres auteurs qui vont de Timothy Leary, toutes ces choses-là.
Alors c'est clair que moi j'ai eu la chance peut-être, mais allez savoir, disons qu'à cet âge-là, à 14 ans, j'étais politisé, mais pas à cette époque-là, on n'a pas, ici en tout cas à la Chaux-de-Fonds, j'ai pas goûté aux pilules psychédéliques et choses de ce genre-là. Je suis plus parti dans du côté du politique, du social, du concret ici. Mais néanmoins, justement, bien sûr, Timothy Leary est une figure importante parce que, voilà, avec Huxley, Les Portes de la Perception, c'est la mise en évidence de ces questions. Mais voilà, est-ce qu'il y a autre chose que notre petit ego? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce que les choses sont inéluctables? Enfin, tout un tas de questions qui où des gens vont chercher, vont faire des propositions qui sont riches, quoi.
Absolument. Puis il y a toute l'anticipation. C'est vrai que quand on relit Le Meilleur des Mondes, eh bien, voilà, c'est quand même une bombe atomique, hein, ce livre.
Et puis c'est clair que moi, très vite, j'ai été un fan de science-fiction. Et je dirais depuis l'âge de 12 ans, je ne lis presque que de la science-fiction. Bon, au début, dans ces années-là, avant 20 ans, je lisais aussi beaucoup de poésie. Bien sûr, les poètes principalement français, Artaud, les surréalistes et des choses comme ça. Et donc, mais la science-fiction m'a toujours plu parce que c'est une forme, imaginer des futurs différents, pas toujours catastrophiques, des fois superbes, imaginer, et tout ça nous amène bien sûr l'imagination, les jeux, ça fait partie d'un monde dans lequel j'aime évoluer.
Et alors politiquement, selon toi, y a-t-il des conquêtes dont on peut dire qu'elles ont été réalisées au moment de 68 ou dans les quelques années qui ont suivi?
Alors, s'il y a des conquêtes, je pense que c'est dans la tête qu'elles se sont faites, parce que peut-être que 68 directement n'a pas amené des lois magnifiques, ça n'a pas été une révolution législative en France, à ma connaissance en tout cas, Mais néanmoins, c'est là que les esprits s'ouvrent, que peut-être que les gens d'aujourd'hui ne se rendent pas compte à quel point la société était encore coincée par une génération qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les gens qui étaient au pouvoir avaient 20 ans pendant la guerre, leurs parents avaient directement subi cette catastrophe, et que la société était bien figée, quoi. Il y avait bien sûr une peur du communisme, parce que peut-être qu'aujourd'hui ça nous paraît ridicule, mais néanmoins, la guerre a été gagnée d'un côté par les Américains, de l'autre côté par les Russes, mais la guerre ne s'est pas arrêtée, elle s'est continuée parce que les pays occidentaux avaient une peur bleue à la fois des Russes, mais aussi de l'intérieur. On oublie que le Parti communiste en France avait plus que 25%, même 30%, en Italie ils étaient pratiquement majoritaires, en Grèce, enfin dans plein de pays, suite à la guerre, antifascistes avaient amené une majorité de gauche qui n'arrivait pas à émerger parce que bien sûr les Américains ont tout fait pour contrer ça dans tous les pays d'Europe parce que c'était urgent. Peut-être que les Russes ne seraient pas venus avec des tanks, mais les partis de gauche où les communistes étaient beaucoup plus forts que les socialistes dans les années 50 auraient pu faire basculer certains gouvernements.
Est-ce, selon toi, et je m'arrêterai là pour ces questions un petit peu d'ordre général, mais c'est extrêmement intéressant de t'écouter justement sur toutes ces questions-là, est-ce, selon toi, là où naissent finalement ces mouvements violents qui vont ensuite égrener en Europe, je pense à la Rotterdam et Fraction, à l'RAF, à la bande à Baader, et également à Action Directe. Selon toi, c'est justement parce qu'il y avait ces verrouillages qui étaient tellement prégnants qu'il y avait en même temps ces premiers false flags, pourrait-on dire, parce que les Américains intervenaient un peu partout pour mettre des personnes, mettre des leurs à la tête de certains pays. Il y a eu plein d'épisodes en Amérique latine, aux Philippines, etc. Selon toi, la question de la violence, est-ce qu'elle naît également là-dedans? Est-ce qu'elle prend ses racines quelque part aussi dans cet esprit de 68?
Alors, je ne saurais pas dire si elle vient de 68 ou si elle vient d'avant. Mais, par exemple, pour moi, alors, c'est vrai que tu fais bien de me rappeler, la bande à Baader, les Brigades Rouges sont été mes héros de jeunesse. Mm-hmm. C'est des gens que j'ai admirés, c'est des gens que j'aurais aidés. Mais moi, je les soutenais entièrement, sans condition. Mais moi-même, je n'aurais pas passé à l'acte violent parce que je m'étais déclaré non-violent pour ne pas faire le militaire ou pour ne pas faire parce que je n'avais pas envie de faire le militaire. Donc, étant non-violent, je ne pouvais pas, moi, devenir un terroriste. À l'époque, ça ne s'appelait pas un terroriste, un contre-révolutionnaire ou un révolutionnaire armé. Mmh. Mais je soutenais entièrement toutes les luttes armées parce que, vu l'importance des moyens mis par les Américains contre les démocraties populaires, il n'y avait pas le choix. Je dirais, c'était trop difficile de prendre tous les ouvriers ou d'avoir des mouvements de masse comme les grèves générales qu'on a pu avoir dans les années 30. Je pense que les gens ont été un peu vaccinés contre les grands mouvements suite au fascisme. Et donc, on s'est retrouvé avec une société assez passive, des gens au pouvoir, une industrie en pleine florissante. Et de l'autre côté, ben voilà, si on voulait faire réagir, il y avait la lutte armée. C'est vrai que tuer des banquiers, tuer des grands patrons, ben voilà, eux, ils tuent des ouvriers, ils nous ont empoisonnés à l'amiante, ils nous ont empoisonnés avec toutes sortes de produits sans scrupules, pour de l'argent. Quelque part, d'avoir une réaction violente, c'est normal. Et elle a encore pas si violente que ça, comparée à ce qu'on nous fait subir ou ce qu'on fait subir aux gens sur leur lieu de travail, dans les transports, dans la bouffe qu'on leur oblige à manger, enfin qu'une violence continue et très, 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 et qui fait des morts. Mm-hmm. Quelque part, il y a eu peut-être la fraction armée rouge aura tué peut-être 10 personnes en 20 ans, mais pendant ces 20 ans, combien de gens auront été tués par les radiations, par le glycomachin, par le DDT, par l'amiante, mais des dizaines de milliers, par les voitures sur les routes. Alors, qui sont les terroristes? Moi, ça me fait rigoler, on est tous d'accord qu'on est face à une propagande, mais des fois, on ne se rend pas compte à quel point les accidents de la route sont beaucoup plus dangereux que les terroristes. Et ça ne choque personne, et ça depuis 50 ans. Donc attention, d'où soutenir la lutte armée, je suis pour, même si ce n'est pas une solution, parce que si j'ai tué quelqu'un, ben après le frère de ce quelqu'un, il a le droit de me tuer et on rentre dans des problèmes de vendetta. Hein, le fils du banquier qui a été tué par la fraction armée rouge a le droit, moi je dirais, de tuer les assassins de son père. Et là, on rentre dans un problème de boucle,
comment on appelle ça, sans fin, voilà.
Mais, de cercle. Mais voilà, en même temps, peut-être que si le banquier avait été plus généreux, il n'aurait pas été tué. Donc, peut-être que ça peut mettre la conscience à d'autres. Il ne faut peut-être pas en arriver là. Mais ça fait longtemps qu'on essaye d'être gentil pour dire aux gens, mais partagez vos richesses, partagez vos connaissances, partagez votre temps. Et en face, on a des gens qui sont avides, qui sont greedy, comme on dit, qui veulent tout, et qui ne sont pas foutus de partager leurs milliards. Et puis ça résoudrait tellement de problèmes et ça donnerait tellement de travail, hein, d'investir dans des choses, un petit peu de millions, quelques millions sur des milliards. C'est pas si compliqué, quoi. Non,
absolument, absolument. Alors, et puis après, il y a la question, si on revient sur, par exemple, l'histoire des cellules combattantes communistes en Belgique, qui, eux, ne mettaient des bombes que dans des endroits où pour lesquels ils avaient prévenu à l'avance, où les autorités ont ignoré à dessein des appels, ignoré le fait d'alerter les personnes. Et finalement, il y a eu quand même un mort lors d'une bombe qui avait été placée dans une banque, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, du coup, cette violence se retourne derrière elle, ensuite par l'appareil de propagande de l'État, qui lui-même a, d'une certaine manière, provoqué cet incident.
Mais là, alors, il n'y a pas d'illusion à avoir. Je pense qu'on l'a vu en Italie, c'est le cas spécial que tout le monde sait, mais je soupçonne que ça soit la même chose dans d'autres pays. Il y a une lutte armée de gauche qui a existé, mais déjà depuis longtemps, il existait une lutte armée de droite qui était en fait des assassinats politiques, des complots divers et multiples, et ensuite de la manipulation, parce qu'on sait que, je crois que les bombes de la gare de Bologne ont été attribuées à la gauche, oui. À l'époque, alors qu'en fait c'était l'extrême droite,
et les services secrets,
voilà, les services secrets américains probablement.
Voilà. Et Piazza Fontana, bien entendu, voilà. À Milan, là aussi.
Et tous les scandales qu'il peut y avoir là-dessous, c'est sûr que je pense qu'être gentil, c'est peut-être bien, mais en même temps, ça, c'est une illusion parce que de l'autre côté, eux, ils ne sont pas gentils. Je veux dire, les Américains, ils n'ont aucun scrupule. Et depuis toujours, où ils assassinent des gens, ils soudoient, ils investissent de l'argent. Je pense que tout le monde sait que Force ouvrière en France est un syndicat qui a été créé par les Américains au sorti de la guerre, qui est financé depuis toujours par les Américains. Et quand vous regardez les négociations syndicales, syndicat patronat, vous avez toujours Force ouvrière qui est d'accord avec le patronat, donc qui casse comme ça un peu le mouvement ouvrier. Comment les ouvriers peuvent accepter finalement d'aller chez Force ouvrière? Bon, y a des gens qui sont un peu syndicalistes, mais de droite, ils cherchent leur intérêt, on peut comprendre, mais voilà, tout le monde ne sait pas ça. Force ouvrière, on se dit, ça doit être un syndicat de gauche. Oui, c'est un syndicat de gauche, peut-être, mais qui est financé depuis 1947 ou 8, je crois, par des fonds américains secrets. Et ça, depuis la fin de la guerre, pour moi, la guerre ne s'est pas terminée. On dit, la guerre s'est terminée en août 1945, mais peut-être qu'elle s'est terminée en Europe, mais les Américains, eux, ont continué d'être en guerre, peut-être parce qu'ils avaient monté une machine qui ne pouvait pas s'arrêter, que quelque part, s'ils avaient arrêté leur machine de guerre, de production de guerre, peut-être que ça aurait été une récession catastrophique. Donc on peut soupçonner qu'ils n'avaient pas le choix, mais en même temps, ils étaient assez intelligents pour se dire, mais convertissons nos usines d'armement en usines d'autre chose. Mais néanmoins, je vous amènerai plus tard dans l'après-midi une merveilleuse liste de toutes les guerres qu'ont menées les États-Unis depuis 1945, bombarder des gens, envoyer des troupes, tuer des gens, enfin, beaucoup de choses qu'aujourd'hui on sait. Parce que, alors, chose remarquable avec les États-Unis, c'est que même les choses les pires, les plus secrètes, aujourd'hui, 30 ans ou 40 ou 50 ans après, on doit déclassifier et on a les réponses. Depuis l'âge de 15 ans, je sais que les Américains ont fomenté le coup d'État au Chili. Mais pendant de nombreuses années, on nous a raconté « mais non, c'est des salades, mais non, c'est parce que la gauche n'était pas foutue de s'occuper bien du peuple chilien ». Et 30 ans après ou 40 ans après, c'est déclassifié. Chose remarquable, je ne comprends pas pourquoi ils ont noté tout ça, pourquoi ils ne l'ont pas détruit, puisque c'était secret à l'époque. Mais probablement pour des questions de responsabilité. Il faut avoir des traces de tout. Parce que si aujourd'hui quelqu'un veut se retourner contre une torture faite dans des prisons de la CIA, eh ben, il ne faut pas que ce soit celui qui a torturé qui soit condamné, mais celui qui a donné l'ordre ou qui a couvert. Donc, peut-être que tous ces archives servent à ça, mais c'est étonnant de voir aujourd'hui, et c'est ça qui est bien de vieillir, je dirais, c'est qu'en vieillissant, les rumeurs et les complotismes s'avèrent ne pas être du complotisme, ce qui était évident pour certaines personnes. On avait assez d'indices quand même, mais la propagande niait toute intervention américaine.
Et on attend encore les témoignages. Qui sait, de personnes comme Kissinger, hein, qui pourraient, juste avant, tu vois, de passer de vie à trépas, nous révéler plein de choses. Hein, parce que des éminences grises telles que ce monsieur, qui a par ailleurs eu le prix Nobel de la paix, hein, ce qu'on pourrait s'en étonner, on devrait s'en étonner en tout cas, eh bien, aurait moult secrets à nous révéler. Écoute, peut-être y a-t-il des gens qui attendent pour le jeu. Je ne sais pas si ces personnes-là. Alors,
d'accord, je vais aller voir.
Voilà, tu regardes et puis après, on est là. Et puis voilà, exactement.
On reviendra expliquer. Génial, ce jeu, mais j'adore pouvoir parler comme ça de politique mais parler de politique au sens fondamental, quelles sont les choses qu'il y a dessous, qu'est-ce qui sous-tend les mouvements, plus que parler de j'aime beaucoup la politique concrète, pratique, faire justement des animations dans la rue, faire travailler avec les gens ici et maintenant, et pas s'occuper de politique internationale où on n'a aucun pouvoir depuis la Chaux-de-Fonds.
Absolument.
Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, et merci beaucoup en tout cas. Et puis nous, effectivement, nous sommes ensemble toute l'après-midi, donc on va continuer comme ça à saupoudrer d'interventions des personnes de passage, pourquoi pas, et tout au long de cet après-midi, a priori jusqu'à 5h30, 6h environ. Alors, j'avais encore quelques questions, mais on en reparlera ensuite concernant justement un petit peu ces questions d'ordre un petit peu essentielles et concernant l'héritage de mai 68. On reviendra là-dessus avec Gab et puis nous allons également capter les informations à proprement parler du jeu, sur le jeu, hein, la chasse au pavé, et ça ce sera peut-être avec l'enregistreur, on verra. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans les conditions du direct ici à la Chaux-de-Fonds. Nous sommes au café restaurant Tché qui se situe place du Bois, c'est la rue du collège 23, qui accueille le jeu La chasse au pavé, un jeu de rôle 68 heures pour faire la révolution dans les têtes. On fait une petite pause musicale et on revient juste derrière. C'est parti. Oh,
la CAB, la comète à la banane, l'émission cabossée qui soigne les cœurs, les corps et les esprits. Sur www.libradio.org, la radio hospitalière.
Voilà, donc ça c'était nos jingles de l'époque où on était tout camossé à la radio. Cette époque est désormais révolue, on est en pleine forme, dit-il. Et nous sommes donc non seulement en pleine forme, mais en pleine partie, enfin on va débuter une partie de la chasse au pavé, cet événement, ce jeu politique 68 art que nous propose ici Georges André et pour lequel, avec lequel nous avons un conciliabule depuis tout à l'heure. Alors avant qu'on entre stricto sensus dans le jeu, j'avais pour terminer le moment d'avant, le moment de réflexion, parce que c'est effectivement extrêmement intéressant d'entendre ton parcours au travers de mai 68. J'avais encore deux petites questions, si tu es d'accord, et puis ensuite on entre dans le jeu. Mais comme des personnes nous ont rejoint, on va faire très rapide et puis ensuite on parlera du jeu. Mais nous parlions de la question, de cette question trouble, compliquée, délicate de la violence. Et donc tu nous en as dit ton point de vue. Mais j'avais envie de t'interroger par rapport au fait suivant. Si on regarde les pays limitrophes de la Suisse, donc l'Allemagne, il y avait la Rotermefraktion, la bande à Bader, il y avait en Italie les BR, les Brigades Rouges et tout, et plein de groupuscules également violents. Nous avions en Belgique les cellules combattantes communistes, hein, également en France Action Directe. En Suisse, pas de mouvement violent. Comment est-ce que tu expliques ça ?
Alors je pense que la Suisse c'est quand même le pays le plus riche du monde, les gens qui y habitent, vraiment il faudrait qu'il soit difficile pour se plaindre. Je pense qu'il n'y a pas assez d'oppression, il y a eu une oppression peut-être, mais principalement, je pense que la Suisse, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle s'est auto-censurée d'une certaine manière, ou la jeunesse des années 50-60, donc nos parents, voilà, ils ont hérité d'un beau pays et peut-être qu'il fallait le maintenir. Donc, je ne sais pas. Mais effectivement, il n'y avait pas assez de misère ou d'oppression directe pour qu'il y ait une nécessité d'avoir une lutte armée. Quoi.
D'accord. L'autocensure, c'est un mot qui est revenu lorsque l'on a, le vendredi passé, assisté aux rencontres du Lucignol, qui sont des rencontres mensuelles auxquelles Libre Radio s'associe. Et on recevait Jean Batou, Pascal Hollenbeek, deux, trois personnes qui, elles aussi, ont participé à Genève à mai 68. Et elles disaient qu'effectivement, en Suisse, on était quand même à l'époque encore dans un système très verrouillé, quand même une démocratie autoritaire d'une certaine manière, et qu'il y avait également cette auto-censure qui régnait et qui faisait que peut-être, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu ces surgissements comme on a pu assister, en tout cas en France et en Italie également, entre autres. Pour en terminer, quel mot aurais-tu envie de dire à des jeunes, je ne sais pas, pré-ados et ados qui s'interrogeraient sur mai 68. Quels seraient les mots-clés que tu as envie avec lesquels tu as envie de débuter une discussion avec des enfants ? Est-ce que ce seraient des mots tels que liberté, tels que féminisme, tels que travail, tels que imaginaire, des choses comme des mots comme ça ?
Non, alors je pense que le premier mot, ce serait imaginaire, espoir. Et créativité. Je dirais ce qui est important, je pense que l'importance des années 70 et comme conséquence de 68, c'est la libéralisation, les gens se sont libérés, la parole s'est libérée, les spectacles se sont libérés, le théâtre, la danse, la littérature, beaucoup de choses se sont libérées, et ça c'est la chose importante, c'est laisser votre imagination construire le futur, et ensuite vos muscles et vos bras et vos équipes vont peut-être les concrétiser.
D'accord. Et puis, selon toi, si maintenant, donc on vit dans un village mondial, on en discutait tout à l'heure un petit peu off comme ça, en disant qu'il y a maintenant presque trop d'informations, on parlait d'info-obésité, de fake news, de toutes ces choses-là qui nous assaillent un petit peu partout, alors il faut maintenant se construire des esprits critiques pour filtrer ces informations. Il y a plus d'eau... Alors, attends.
J'ai plus de casque, mais je ne sais pas si on entend.
Alors,
le reste.
Toi, on t'entend, mais ouais, pourquoi d'accord. Tu n'as plus de casque ?
Voilà, ouais, c'est bon.
Ah, c'est bon. Alors, c'est un faux contact. Mm-hmm. Alors, voilà. Selon toi, dans un monde mondialisé, d'une certaine manière, ou en tout cas duquel on entend des informations, quels seraient les... comment dire, les lieux ou les opérations qui auraient cours, qui seraient le plus proches de cet esprit de mai 68. Est-ce que ce serait par exemple le Rojava au Kurdistan? Est-ce que ce serait le mouvement zapatiste au Mexique? Aurais-tu identifié, toujours selon ton point de vue, hein, des lieux un petit peu comme ça qui, selon toi, propageraient, continueraient cet esprit de mai 68?
Alors comme ça, il me semble que c'est pas tellement. Peut-être on trouve ça un peu à Hong Kong avec les mouvements des parapluies là, qui essayent de lutter contre la mainmise chinoise sur Hong Kong. J'ai pas tellement suivi parce que tout à l'heure tu as parlé qu'on était soumis à énormément d'informations, trop d'informations. Là, je suis pas d'accord avec ce discours parce que je pense qu'on est encore heureusement, on a le choix. Donc on a le choix d'allumer la télévision tous les jours pour garder les news, on a le choix de lire le journal tous les jours pour savoir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, on a le choix d'aller sur Internet voir des fakes ou des pas news. Et donc, oui, il y a beaucoup d'informations disponibles, mais elle n'est encore pas obligatoire, diffusée en continu dans les rues, en tout cas chez nous. Et donc, en ce sens-là, il n'y a pas trop d'informations. Si on est saturé d'informations, ben on n'a qu'à un peu baisser le volume, couper la radio, arrêter d'écouter des news qui, au niveau de la radio en tout cas, au niveau de la télévision, sont peu intéressantes, ont peu de sens finalement. Quand vous êtes en Suisse et qu'on vous met aux news et qu'on vous le répète 5 fois dans la matinée qu'un bus a fait 12 morts dans un pays à 5000 km, ce n'est pas de l'information, c'est du remplissage, c'est de la propagande, disons. Donc en ce sens-là, il faut faire attention, il n'y a pas trop d'informations, c'est les gens qui se laissent aller, des fois, à en consommer trop.
D'accord. L'esprit critique pour toi, est-ce quelque chose qui a cours actuellement? Est-ce qu'on est dans une phase de régression, ou d'évolution, d'involution concernant l'esprit critique des personnes et puis, voilà,
Alors j'ai pas trop peur, je suis assez peu, comme on dit, le contraire de pessimiste, optimiste.
Optimiste, ouais.
Je suis plutôt un rousseauien qui pense que l'homme est bon fondamentalement, c'est la société qui le pervertit, son éducation, hein, tout ce qui fait la méchanceté des hommes, je pense que c'est les conditions de vie et l'éducation qu'ils ont quand ils sont jeunes principalement, mais aussi après quand ils sont vieux. Mm-hmm. Et en ce sens-là, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur, de toute façon, en tant que fan de fiction, parce que j'ai pu détecter chez les jeunes d'aujourd'hui 20 ans ou même de 15 ans, tout ce mouvement bio, vous allez dans les festivals, Burning Man, et tous les Burning qu'il y a après partout dans le monde, Burning Switzerland, toute cette communauté de jeunes qui aujourd'hui sont peut-être pas, défilent peut-être pas dans la rue, mais construisent en parallèle des choses, vivent dans des petites fermes, retapent des trucs, vont au marché, réussissent à s'intégrer, à créer des économies circulaires, parallèles. On n'est plus dans un concept de « on veut gagner plus », comme les ouvriers ont pu le réclamer à une époque parce qu'ils étaient coincés dans leurs 8 heures par jour. La nouvelle jeunesse, elle ne veut pas bosser 8 heures par jour. Elle veut bien bosser 3 mois pour avoir du fric pour ensuite faire autre chose, des voyages, des festivals, déconstruire des trucs, faire des rave parties. Il faut aussi voir que toute la jeunesse d'aujourd'hui, par Internet, par les nouveaux outils qu'on a une créativité, des outils à disposition qui sont phénoménaux. Quand je pense que moi, quand j'ai fait de la vidéo à l'âge de 20-25 ans, il fallait un matos incroyable, c'était compliqué de faire du montage, c'était compliqué de faire des copies. Aujourd'hui, dans un téléphone, vous avez un enregistreur, un diffuseur, une caméra, un scanner, vous avez tout sous la main. Et la jeunesse de demain, qui va prendre le pouvoir dans les années qui viennent, elle a une autonomie qui me plaît bien. Parce que voilà, ils ont des outils qui leur permettent d'être autonomes. Ils peuvent se financer aujourd'hui. Il y a quand même une révolution qui est magnifique, je trouve. C'est le kickstarterisme ou tout ce participatif où vous avez un projet, vous avez une idée, il est abouti, il est beau, il est propre. Vous le montrez aux gens, vous leur dites, voilà, il me faut 10 000 francs. Si c'est bien fait, vous en récoltez 40 000. Les gens, en fait, ils vous achètent à l'avance vos idées, vos projets. C'est de la souscription. On n'a rien inventé par rapport à nos grands-parents qui, quand ils voulaient publier un livre un peu cher, ben, il fallait que les gens le payent avant. Puis ensuite, quand on avait l'argent, on pouvait l'imprimer. Ben, cette technique-là s'est démultipliée avec le net, avec le crowdfunding, comme on appelle, le financement participatif, je préfère ça en français. Voilà, on n'a plus besoin des banques, on n'a plus besoin de mendier, on montre nos idées. Alors c'est clair que si votre idée elle est floue, ben, personne ne va mettre de l'argent. Mais moi qui travaille dans le monde du jeu, je vois que des gens font des maquettes, des protos qui sont tip-top, qui sont prêts à partir à l'imprimerie. Les gars, ils ont besoin de 500 000 francs parce qu'ils veulent en tirer 10 000 exemplaires. Ils récoltent 2 millions en un mois. Il y a des gens qui comme ça, sont prêts. Voilà, ben, je te l'achète, ça vaut 100 francs. Et puis, ben, si je veux la petite version, je mets 50 francs. Puis j'ai juste le jeu de base. Puis si je veux la version luxe, ben, je mets 150. Mais comme ça, on a des financements hallucinants de gens autonomes. On a eu l'occasion d'accueillir au Festival Ludesco l'auteur du 7e continent, qui est un jeu qu'aucun éditeur n'aurait accepté de publier. Et ils ont réussi à lever 1,5 million au niveau mondial, d'accord, hein, mélange États-Unis-Europe. Mais néanmoins, à la base, c'est des Français. Et leur deuxième édition a levé plus de 3 ou 4 millions. Donc, et pour des œuvres, c'est une œuvre ludique, mais qui n'aurait jamais eu lieu. Donc, c'est possible aujourd'hui. La jeunesse sait l'utiliser. Mmh. Elle en Suisse, ça va s'appeler ça va s'appeler WeMakeIt. Ça va s'appeler. Il y a plein de plateformes qui permettent de financer selon le secteur dans lequel vous travaillez. Mais j'encourage vraiment tout le monde qui a envie, qui se plaint toujours. Oh, il n'y a plus de subvention. Oh, il n'y a pas d'argent. Oh, j'ai pas de sous. J'ai des idées, mais j'ai pas de sous. Stop. Avec le financement participatif, vous avez une idée, vous la développez. Quand elle est prête à montrer aux gens, vous la montrez et vous trouvez l'argent instantanément dans le cercle des gens qui aiment ce que vous faites, quoi.
D'accord. Eh ben, je crois que c'est une bonne fin pour cette première partie d'entretien, parce que c'est une fin quand même plutôt optimiste, hein, j'ai l'impression. À moins que parmi nous, des personnes souhaitent poser des questions, c'est toujours possible. On a un micro exprès pour, hein, donc n'hésitez pas en tout cas à vous en saisir. Pour une personne comme toi qui effectivement est beaucoup dans le jeu, beaucoup dans la science-fiction, toi, si tu... quelle est ta vision de l'avenir, les défis que l'on va devoir affronter à l'aune de ce 21e siècle? On voit qu'il y a quand même cette crise des migrants, crise en guillemets. On voit que quand même, il y a une forme d'information qui est là et puis qui peut quand même créer non seulement des questionnements, mais des effrois. On sent que les gens ont des fois peur. On parle de ces personnes qui vont et qui viennent, qui sont dans des situations extrêmement délicates, qui vont finalement changer même les sociétés dans lesquelles on vit. Enfin, comment toi tu vois le monde? Est-ce que c'est plus une utopie vers laquelle on irait, ou plutôt une dystopie qui nous rattrape?
Non, alors de nouveau, comme je suis assez pessimiste, assez optimiste, pour moi, c'est pas, je peux pas parler de crise de migrants, parce que les gens oublient qu'en fait, la migration, c'est constant, c'est depuis tout le temps. On a eu des gens qui ont bougé. Là, en fait, donc les 100 ans de la Révolution russe, ben, ceux qui n'ont pas voulu rester sous la Révolution russe, soit parce qu'ils seraient morts, parce que c'était des aristocrates, soit parce qu'ils avaient un peu trop collaboré avec le tsar et les aristocrates en général, ben, ces gens-là, ils ont émigré, ils sont allés en Pologne, ils sont allés en Allemagne, ils sont allés à Paris. Et puis ensuite, il y a eu les vagues suite à la Première Guerre. La deuxième a fait une immense vague vers les États-Unis. Constamment, vous avez des vagues qui sont des Chinois, des Polonais, des Africains, des Nord-Africains, des Arabes. Au gré des générations, on a constamment des gens qui se déplacent. Donc, et en même temps, c'est nécessaire. Les gens, ils se déplacent parce que d'un côté, il n'y a pas de travail, puis de l'autre côté, il y en a. Ici, il y a plus de travail qu'il y a de travailleurs. Donc, il faut des nouvelles forces avec... Avec la natalité très basse en Europe, on arrive, en tout cas certains pays, ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin de gens, et de tout temps. Et donc là, pour moi, il n'y a pas de crise de migration, il y a juste, voilà, on nous fait du foin avec des petits bateaux au milieu de la Méditerranée, mais il y a toujours eu des gens qui ont passé. Alors peut-être qu'avec la guerre en Syrie, il y a plus de gens déplacés, donc quand on est déplacé, autant bouger plus loin que juste 100 km. Donc peut-être que dans des périodes comme ça, quand il y a une guerre, il y a un petit flux, mais on voit qu'en même temps pas du tout. L'année passée, on a eu cet immense flux théorique, parce qu'on ne l'avait pas vraiment vu. C'était censé y avoir des colonnes de Syriens qui remontaient à travers la Yougoslavie, qui allaient envahir l'Europe et tout. Et ce n'est pas du tout le cas, quoi. Et on le voit que... Et de toute façon, Aller voir les sociétés, les grandes villes aujourd'hui, c'est un mélange de gens qui sont là de tous les quatre coins de la planète. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Il y a juste un problème médiatique qui se focalise là-dessus. Autrement, j'ai assez bon espoir. Parce que, par exemple, la France, alors je ne suis pas macroniste, on est sûr, mais c'est clair que j'avais beaucoup peur que la gauche, qui avait raté franchement les cinq dernières années, se fasse massacrer par une droite arrogante. Et surprise, on se retrouve avec un type qui est peut-être un peu plus à droite, mais qui réussit à mettre dans un gouvernement des gens de gauche, des gens de droite, des écolos, des choses. Et surtout, ce qui m'a réjoui avec le macronisme, c'est que tous les vieux politiciens se sont fait virer de l'Assemblée nationale. C'est un renouvellement complet, en tout cas de l'Assemblée nationale. Ça ne va pas forcément transformer le pays, mais il y a eu une surprise là, il y a eu un choc. Personne ne s'attendait à ce que des gens hyper célèbres ne soient pas réélus, alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient à l'Assemblée. Et ça, c'est comme la chute du mur de Berlin. Personne, il y a 5 ans avant, personne n'aurait parié un centime sur la chute du mur. Moi, quand j'étais jeune, pour moi, c'était... Même dans ma tête, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, ce mur tomberait. Ou alors qu'il y aurait une guerre qui le provoquerait. Mais... Et là, tout d'un coup, paf, ça s'est passé. Et là, de nouveau, ça s'est passé. Comme en Espagne, il y a aussi eu des cas où tout d'un coup, vous avez des gens hors circuit politique qui sont amenés au pouvoir. En Grèce aussi, avec Podemos. Non, c'est Podemos, non,
oui,
Podemos, c'est
oui.
Ça. Donc on voit que des choses qui paraissent immuables, ben non, elles ne le sont pas. Il y a toujours des surprises. Alors et même nous qui sommes, moi qui suis intéressé par la politique, qui suis intéressé par la géopolitique, comment les choses bougent, qui influencent quoi, pourquoi il se passe ça ici, parce que des fois il se passe ça ici, mais en fait c'est parce qu'il se passe ça ailleurs, autre chose, qui a directement des conséquences. En ce sens-là, j'aime bien être surpris par l'actualité, et tout d'un coup, voilà, il y a une révolution. Personne n'y pensait. Géorgie, on a encore eu un cas récent où en Géorgie, on a un type qui réussit à prendre pacifiquement le pouvoir, à virer un président corrompu, malgré un parlement corrompu. Donc voilà, c'était pas possible, mais ça s'est passé.
Très bien. Et si vous veniez faire la révolution à la Chaux-de-Fonds ?
Et voilà,
nous y sommes.
Donc en fait,
alors, dis-nous, la police vous parle à 20h. Ça, voilà. C'est l'affiche qui est une splendide affiche qui est originale de 68.
Voilà, hein. Donc en fait, l'affiche du jeu a été reprise d'une affiche qui avait été publiée sur les murs où ça s'appelle « La police vous parle tous les soirs à 20h » où on voit un magnifique CRS avec son fusil, ses lunettes noires et son casque. Typiquement,
on va recontextualiser. C'était l'époque de l'ORTF, donc canal unique. À 20h, c'était le journal, donc tout le monde était devant. Et comme surgissement de l'information, il y avait finalement que ce canal là.
Voilà, effectivement, les gens là n'avaient pas la liberté qu'on a aujourd'hui d'aller s'informer à gauche, à droite, même si ça peut amener une dilution du public. Néanmoins, au moins, on a le choix. On peut regarder des télévisions de gauche, de droite, racistes, pas racistes. Enfin, voilà. Je suis entièrement pour le premier amendement qui donne l'entière liberté de parole aux gens. Je préfère que les fascistes aient le droit de s'exprimer, même les racistes, parce qu'en échange, moi, en tant que gauchiste profond, j'ai aussi le droit de m'exprimer et je suis contre tout dogme ou contre tout tabou. Même si des fois c'est un peu dur, à nous de trouver les arguments pour contrer des arguments. Mais la liberté d'expression est fondamentale. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est peut-être une des grandes transformations des années 70 et surtout des années 80 avec les radios libres, d'abord hertziennes, puis ensuite Internet, de permettre d'entendre ce qu'on a envie, d'écouter ce que les gens qui sont de notre bord produisent comme information.
Voilà, puis comme tu l'as dit, une pluralité de sources permet justement de les confronter, de les croiser. Et pour nous, en tout cas, c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire ça, effectivement. Alors, ce jeu,
la chasse
au pavé.
La chasse au pavé. Donc, le principe, c'est le suivant. Vous allez avoir, en fait, 5 équipes. Donc, les joueurs vont aléatoirement être attribués à une équipe. Vous avez les étudiants. Vous avez les syndicats qui sont plutôt dans les usines, les étudiants étant à l'université. Les fonctionnaires, c'est les CFF, les PTT, les DF. À l'époque, tout ça était des fonctions d'État. Les politiciens et les patrons. Le jeu va se passer en fait dans le bistrot, dehors, dans le parc, un peu partout. C'est un jeu qui est fait pour que les gens, finalement, On va au bistrot, mais souvent on va au bistrot avec les gens qu'on connaît, on s'assied à une table et on reste à cette table, et quand on repart, on ne connaît personne de plus. Et ce jeu est fait pour nous inciter à venir avec nos amis, mais d'être obligé d'aller parler à la table d'à côté, parce qu'ils ont des cartes qui nous intéressent, et on va les échanger avec les cartes que moi j'ai reçues, parce que je consomme, parce que je participe au jeu. Le principe de ces cartes, eh bien sur les cartes, vous avez en fait, vous allez faire des actions pour soutenir votre équipe. Et donc, vous pouvez faire des manifs, vous pouvez faire la grève, vous pouvez faire des occupations ou vous pouvez faire des émeutes. Attention. Et donc, les manifs, ben, ça vous rapportera un point à votre équipe. Quand les émeutes, ça vous rapportera 4 points. Mais pour que ça se sache, eh bien, il faut qu'il y ait une information. Donc, vous avez d'autres cartes qui sont des tracts, des journaux, des radios, des télévisions, qui vont multiplier. C'est-à-dire que si vous faites une manif où il y a juste des tracts qui l'annoncent, pas beaucoup de points. Par contre, si vous faites venir une télévision à votre manif, eh ben, ça sera 4 fois les points. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, nous avons le support du jeu, c'est la ville de Paris, où chaque équipe a 5 lieux à lui. Et l'idée, c'est qu'on va aller faire des actions dans les lieux des autres pour leur faire perdre des points. Donc, il faut réunir une carte. Par exemple, en tant qu'étudiant, je veux aller faire une manifestation devant la SNCF. Ça sera contre les fonctionnaires. Donc, il faut que je trouve une carte manif. Il faut que je trouve une carte SNCF, qui est le lieu où il y aura lieu la manif. Et il faut que je trouve une carte de presse quelconque, soit un tract, soit une radio, soit une télévision, pour marquer les points. Et donc, je vais aller donner ces cartes-là à l'arbitre qui va annoncer, ben voilà, il y a une manif qui commence devant la SNCF. Bien sûr, les fonctionnaires, eux, ne sont pas contents. Donc, ils vont essayer d'interrompre cette manif. Et il y a des cartes qui circulent, qui sont des réactions, qui permettent donc ou des dispersions, qui permettent de bloquer, comme ça, des manifs. Ou alors, il y a des cartes scandales parce que les fonctionnaires ont vu que les étudiants ont utilisé les sous des subventions pour faire leur tract, ce qui n'est pas du tout correct. Alors ils font un scandale, donc il y a une carte scandale qui va inverser les points. Alors normalement c'est les fonctionnaires qui perdaient des points et les étudiants qui en gagnaient. Avec une carte scandale, c'est le contraire, les étudiants vont se retrouver le nez dans l'eau et c'est les fonctionnaires qui vont bien rigoler. Donc voilà, donc le jeu c'est d'aller discuter avec les gens, bien entendu. La première partie du jeu, c'est d'essayer de trouver vos collègues. Donc vous êtes étudiant. Ben, y a d'autres gens qui sont étudiants dans la soirée. Et autant vous mettre ensemble pour récolter les bonnes cartes qu'il vous faut.
J'ai une question.
Oui.
Si je collecte des cartes et puis je fais une manifestation, je ne suis pas obligé de donner toutes les cartes que j'ai dans la main.
Pas
si
du
j'ai
tout.
Une carte scandale, je n'ai pas besoin de la donner.
Vous gardez les cartes que vous avez, vous les utilisez quand vous en avez besoin. Il y a deux stratégies. Ou bien vous faites des manifestations pour vous dans vos lieux. Hein, vous faites une occupation de l'université en tant qu'étudiant, ben ça vous donne des points à vous, d'accord ? Ou bien vous faites des manifestations contre les autres groupes, ou on peut même aussi imaginer qu'à un moment donné, vous ayez des alliances et que les autres n'ont pas... Voilà, vous avez un allié, imaginons les étudiants sont alliés avec les syndicats, comme par hasard. Eh bien, il se pourrait qu'un joueur qui est étudiant utilise ses cartes pour aller faire une manifestation pro-syndicat dans une usine, il va en fait soutenir les syndicats. Donc l'étudiant va marquer des points parce qu'il fait quelque chose. Et comme c'est une manif de soutien, eh ben, le syndicat aura aussi des points. Par contre, on pourrait avoir des étudiants qui disent « Non, 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 on fait une manif devant l'usine Billancourt. Il faut une carte manif, il faut une carte Billancourt. » Et on peut dire « Elle est contre les syndicats. » Et voilà, il y aura les... Donc voilà la mécanique du jeu. Et ça, ben les gens, voilà, ils jouent, ils discutent, ils dansent, il y a de la musique, ils font des choses et le jeu se déroule. Il y a pas, on n'est pas tous assis autour de la table, ça va bouger. Alors là, malheureusement, aujourd'hui, il fait peut-être trop beau, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc en fait, ça sera des tout petites équipes. Le jeu est prévu idéalement pour une trentaine de personnes. Comme ça, ça fait 6 personnes dans chaque équipe. Et puis, il y a des interactions possibles, il y a tout un jeu aussi à trouver qui sont les étudiants, je suis étudiant mais qui sont les autres étudiants, etc. etc. Donc aujourd'hui ça va peut-être être une partie un peu test parce qu'il y a peu de gens, mais néanmoins ça va le faire quand même et vous aurez bientôt des événements qui vont se passer donc à Paris. Donc voilà la mécanique du jeu.
Ce jeu est-il une pièce unique ? ou il y en a, il est édité et distribué.
Non, alors il n'est pas encore édité et distribué. Là, il a été pondu, c'est un prototype, comme on dit, il a été photocopié sur des petits cartons et tout. J'ai gardé les illustrations du jeu qu'on avait utilisé en 88. C'est un petit coup d'œil à M. Zaslavski, donc le co-auteur de ce jeu. C'est 88, c'est les premiers Macintosh qu'on a. Voilà, c'est les premières fois qu'on commence à utiliser l'informatique pour pondre des maquettes de jeux. Et là, les dessins ont été faits sur un Paint, sur un Macintosh SE, donc vraiment le grand papa, la préhistoire de l'informatique. Mais néanmoins, voilà, c'est là. Puis je me suis dit, ben, au lieu de mettre des belles images, c'était facile aujourd'hui d'aller chercher des belles icônes sur le net. J'ai gardé ces vieux dessins mal fichus un peu, parce que dessiner à la souris à l'époque, c'était pas facile. Mais néanmoins, ça a une petite pêche. Donc voilà quoi.
Et alors, si des personnes souhaitaient t'inviter pour que tu présentes ce jeu ici ou là, est-ce qu'ils peuvent te contacter ?
Oui, alors c'est d'ailleurs l'objectif. Hein, en le réactivant, ça m'a permis de... J'ai retrouvé la vieille maquette que j'ai remis un peu à jour. Et donc ce jeu, il est parfait pour une entreprise, pour une soirée d'amis, parce que justement, c'est pas tout le monde doit jouer et tout. C'est une espèce de couche supplémentaire à la journée ou à la soirée ou à l'après-midi. Il faut compter théoriquement 3 heures pour qu'on s'amuse bien, 3-4 heures. En général, on le faisait le soir de 20h à minuit. Et puis ensuite, on fait la disco, puis voilà. Donc c'est un projet, mais c'est aussi un projet qui est faisable. Là, je vais faire des propositions pour la rentrée, comme une scolaire. C'est-à-dire que le jeu est idéal à 30 personnes, comme j'ai dit. Donc ça va très bien entre 15 et 100, voire même plus. On peut être beaucoup à jouer. Et donc, voilà, on est là à disposition pour soit un anniversaire, soit pour des scolaires, pour ce qui peut être la bonne occasion dont on fait ce jeu-là. Ça donne des idées aux élèves. Et puis ensuite, on parle de révolution ou de 68 ou de mouvements sociaux. Ou le contraire, on prépare d'abord, puis on fait le jeu après. Donc voilà, c'est des possibles.
Aucun prérequis nécessaire, je veux dire une connaissance de l'histoire ou de certains points d'histoire, ça c'est le premier volet de la question. Et deuxième volet, à partir de quel âge est-ce que tu le conseilles ?
Alors, aucun prérequis, il n'y a même pas besoin de savoir compter, il faut juste savoir lire, parce que savoir qu'est-ce qui est écrit sur les petites cartes, puis même il y a des dessins qui sont presque assez parlants. Donc même un analphabète pourrait jouer parce qu'il chercherait simplement les dessins en comparant et il n'a pas besoin de savoir lire ce qui est dessus. C'est un jeu qui est fait pour que les gens se parlent. Et par prétexte, ils se parlent d'abord de jeu, mais ensuite ils vont se parler d'autre chose. Et puis tu fais quoi dans la vie ? Puis parce qu'on n'est pas en train de jouer constamment. Une fois qu'on a fait un événement, ben, il va falloir aller chercher d'autres cartes. On va profiter qu'il y a des gens dans le bistrot qui ne jouent pas, mais qui ont reçu aussi des cartes quand ils ont commandé à boire pour aller les convaincre qu'ils nous donnent ces cartes. Donc voilà, les cartes ne sont pas infinies. Il faut nous un petit temps pour en réunir. Et pendant ce temps, on cause d'autres choses, on cause du beau temps ou on cause de ça. L'âge, donc, moi je dirais, pour pas qu'il se disperse, parce que c'est un jeu qui a du sens, il dure comme ça 1h30, 2h minimum, je dirais 8 ans, 8, 9, okay. 10 ans, on arrive à peu près à les... J'ai pas eu l'occasion de le faire avec des jeunes comme ça. C'est pas ma tasse de thé d'animer avec des petits. Je pense que ça, c'est un jeu pour les scolaires, entre autres, idéal pour du 14 ans, pour du 13 ans, donc du fin de scolaire, dernière ou avant-dernière année, ou déjà aussi c'est l'âge où ils se posent des questions, parce que c'est clair, c'est un jeu, mais en même temps, c'est aussi un prétexte à parler politique, à parler soit d'histoire, soit de futur.
Oui, oui. Alors, une question.
Je voulais savoir, finalement, le but du jeu, c'est de faire rencontrer les gens, ou bien il y a un but du jeu avec mai 68, ou c'est quoi exactement ?
Alors le mai 68, c'est donc le prétexte, on va dire, c'est le costume, puisqu'en fait ça se passe à Paris, les lieux, j'en ai cité quelques-uns, mais pour donner un ordre d'idée, les lieux c'est Nanterre, la Sorbonne, mais c'est la Bourse, ou bien c'est les Galeries Lafayette, c'est le Palais de l'Élysée, c'est l'Hôtel de Ville, c'est les usines Rhône-Poulenc, c'est Billancourt, des choses comme ça. Donc là, il y a un ancrage historique qui correspond. Le but mécanique du jeu, ben, c'est que votre équipe à laquelle vous faites partie fasse le plus de points. Donc défendre le mieux ces lieux et puis faire des manifs dans les autres lieux. Et il y a une surcouche, mais qui est un peu toujours celle que j'ai développée. J'ai beaucoup fait jouer les gens dans cette ville.
avec d'abord les clubs de jeux, de société, puis ensuite le festival du Desco ou Bikini ou des choses comme ça, où l'idée, ben voilà, on veut faire de l'art ou on veut faire du jeu, mais avant tout, c'est que les gens se rencontrent, sortent de chez eux, sortent de leur écran, se parlent, se touchent, se voient et s'amusent et rigolent ensemble, quoi.
Très bien. Et puis, on l'a justement pas encore dit, enfin, on l'a dit au sommaire de cette émission, mais le contact, ton contact, comment est-ce qu'on te joint dans le cas où on souhaiterait justement te solliciter pour venir présenter le jeu, ou qui sait, pour, je ne sais pas si tu cherches également éditeur, distributeur, tout ce circuit-là.
Alors, éditeur, non, parce qu'en fait, là, ce qu'on va jouer aujourd'hui, c'est une version qui se joue donc, comme ça, avec plein de gens libres. On avait pondu aussi à l'époque avec René-Georges Zaslavski, à partir du même jeu, une version plateau, donc qui se jouait sur la table à 4 ou 6, donc plus soirée, qui est dans une boîte, et là, ben ça, on tâchera de l'éditer aussi à l'occasion, et c'est ça. Sinon, le reste, on le vend, on vient, on fait, on discute un peu avec les organisateurs avant, et puis on regarde qu'est-ce qu'il faut. Ici, il y aura un petit souper, il y aura des choses pour l'après-midi, puis après, c'est couplé avec un souper, alors c'est un souper léger, mais parce qu'il fait chaud et tout, mais donc voilà, ça peut s'intégrer à différents lieux ou temps, ou choses comme ça.
Ok, le mail, on peut le citer?
Ouais. Alors le mail, donc si on veut me contacter pour avoir des nouvelles de ce jeu, ou d'autres idées, hein, on foisonne d'idées, d'animations comme ça, c'est G.A. Brugère, pour Georges-André Brugère, donc G.A. Brugère, @yahoo.fr, YAHOO.fr.
Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche les micros et puis on se met au jeu, ou
ça marche? Ouais, alors on va vous lancer dans le jeu maintenant.
C'est parti.